Chapitre 26. Chelsea, 1990. Peu de temps après cette discussion avec ma mère, durant laquelle j'avais découvert que David donnait tout notre argent à des associations caritatives et qu'il allait vivre avec nous pour toujours, je le vis embrasser Birdie. Une vision qui me répugna profondément, à bien des égards. D'abord, comme vous le savez, je trouvais Birdie particulièrement repoussante. La pensée de ses petites lèvres dures, collées à celles généreuses de David, des mains de ce dernier posées sur ses hanches décharnées, de la grosse langue de Birdie en expédition dans la cavité obscure formée par leurs deux bouches, Burke. Ensuite, j'avais des valeurs assez traditionnelles, et l'idée de l'adultère me révoltait. Et enfin, même si je n'en saisis pas tout de suite le sens, les implications de ce baiser illégitime n'étant pas encore évidentes, une sensation de terreur m'envahit en voyant David et Birdie devenir un seul et même être. J'avais pressenti que cette union allait éveiller en chacun d'eux quelque chose qu'il aurait mieux valu laisser enfoui. C'était arrivé un dimanche matin. Sally était sortie prendre des photos pour un tournage. Justin vendait ses potions au marché. Mes parents traînaient en robe de chambre dans le jardin. Ils lisaient le journal en buvant du thé. Je m'étais réveillé à 8h30, ce qui n'était pas dans mes habitudes. J'ai toujours été matinal, et même quand j'étais adolescent, je me levais très rarement après 9h. Je venais de sortir de ma chambre et me frottais les yeux encore mi-clos de sommeil quand je les vis dans les bras l'un de l'autre devant la chambre de David. Elle portait une chemise de nuit en mousseline, lui un peignoir en coton noir. Elle avait une jambe avancée entre les siennes. Leurs bas-ventres étaient collés l'un à l'autre. Il avait posé une main sur son cou pâle, constellé de grains de beauté. Elle avait glissé une paume sur sa fesse gauche. Je reculais immédiatement dans ma chambre, le cœur battant, mon estomac révulsé. Je plaquais mes deux mains sur ma bouche pour réprimer la nausée qui montait. « Merde !» chuchotai-je. Puis je répétai ce mot haut et fort. J'ouvris la porte un instant plus tard, mais ils avaient disparu. Je ne savais pas quoi faire. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Il fallait que j'en parle à Finn. Finn écarta ses mèches blondes de son visage d'un petit geste de la main. Malgré l'adolescence, il devenait plus irrésistible de jour en jour. Il n'avait que 14 ans et mesurait déjà 1m80. Selon mes observations, il n'avait jamais eu le moindre bouton d'acné. Et, vu que l'étude du visage de Finn était mon passe-temps favori, je l'aurais forcément remarqué. « Il faut qu'on parle !» murmurai-je avec empressement en m'approchant de lui. « C'est de la plus haute importance !» Il me suivit au fond du jardin jusqu'au banc courbé qui baignait dans la lumière du soleil matinal. À cette époque de l'année, les arbres étaient trop feuillus pour qu'on puisse nous voir depuis la maison. Je me tournai vers lui. « Je viens d'assister à une scène abominable !» Finn me lança un regard dubitatif. Il pensait probablement que j'allais lui annoncer que j'avais vu le chat lécher le beurre, ou quelque chose d'aussi trivial et puéril que cela. Il ne me croyait clairement pas capable d'identifier un événement choquant. « J'ai vu ton père et Birdie. » Son air condescendant s'effaça pour laisser place à de la panique. « Ils sortaient de la chambre de tes parents. Ils s'embrassaient. » Je le vis tressaillir. J'avais toute son attention. 2 ans après notre rencontre, Finn me regardait enfin. Il serra la mâchoire. « Tu te fous de ma gueule » aboya-t-il. « Non, je te jure » m'exclamai-je en secouant la tête. « Je viens de les voir, il y a 20 minutes, je te jure !» Ses yeux s'emplirent de larmes qu'il essaya de réprimer. On m'a souvent dit que je manquais d'empathie. C'est peut-être vrai. Je n'avais pas imaginé que cette nouvelle risquait d'attrister Finn. Le choquer, oui, le scandaliser, le dégoûter. Mais lui causer de la peine. Je suis désolé, je... Il secoua la tête. Ses beaux cheveux blonds vinrent dissimuler son visage un instant, puis s'écartèrent à nouveau pour révéler une expression magnifique et déchirante de courage. Ça va. Je suis content que tu me l'aies dit. Un silence s'installa entre nous. Je ne savais pas quoi faire. J'avais enfin capté son attention, mais je venais de lui faire du mal. Je regardais ses grandes mains bronzées, agrippé à ses genoux, et j'avais envie de les prendre dans les miennes, de les caresser, de les embrasser pour faire disparaître sa douleur. Une irrésistible vague de désir physique monta de mes entrailles et déferla sur moi, me noyant dans cette envie brûlante. Je détournai rapidement le regard pour contempler l'herbe entre mes pieds nus. « Tu vas le dire à ta mère ?» Il fit non du menton. Ses cheveux retombèrent, cachant à nouveau son visage. « Ça la tuerait, » répondit-il simplement. Je hochai la tête, comme si je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais je n'en avais aucune idée. Je n'avais que 13 ans et je n'étais pas très mature. Oui, la vue de Birdie et David en pyjama en train de s'embrasser passionnément m'avait paru dégoûtante. Oui, je savais qu'un homme marié ne devait pas embrasser une femme qui n'était pas la sienne. Mais je ne parvenais pas à imaginer en quels sentiments cela pouvait se traduire, ni quelle réaction cela pouvait provoquer chez quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas comment Sally aurait pu mourir simplement en apprenant que son mari avait embrassé Birdie. « Tu vas le dire à ta sœur ?»«
Je l'ai dit à personne, putain !» s'écria-t-il. « Et tu devrais pas non plus. »
« Sérieusement, ne dis rien à personne, sauf si je te demande de le faire, ok ?» J'acquiesçai à nouveau. J'étais dépassé par les événements et je ne voyais aucun inconvénient à suivre les ordres de Finn. Le moment était venu de m'échapper, je le savais. Il allait se lever, rentrer sans me prier de venir avec lui, et je resterais assis seul sur le banc, avec les souvenirs de cette matinée bouillonnant en moi, ses envies, ses besoins, ce désir brut. Malgré ce qui venait d'arriver, tout reviendrait à la normale, à la politesse et à la réserve qui caractérisaient nos relations. « Et si on sortait ?» proposai-je le souffle court. « Si on faisait quelque chose ?» Il se tourna vers moi.
« Tu as de l'argent ?»«
Non, mais je peux en trouver. »«
Moi aussi. Rendez-vous dans l'entrée à 10 heures. »
Il se leva et s'éloigna. Je l'observais, remarquant la marque de sa colonne vertébrale sous son t-shirt, l'ampleur de ses épaules, ses grands pieds qui foulaient le sol, l'inclinaison tragique de sa magnifique tête. J'avais trouvé quelques pièces dans les poches de la veste de mon père et subtilisé 2 billets dans le portefeuille de ma mère. Je m'étais brossé les cheveux et j'avais enfilé la veste à fermeture éclair qu'elle m'avait achetée quelques semaines plus tôt dans un magasin bon marché d'Oxford Street et qui était 100 fois plus chouette que tout ce qui venait de chez Harrods ou Peter Jones. Finn était assis sur l'un des trônes en bas de l'escalier, un livre dans les mains. C'est encore ainsi que je me le figure quand je pense à lui. Dans mes rêves, il abaisse le bouquin, lève les yeux vers moi, son regard s'éclaire en me reconnaissant et il me sourit. Dans la réalité, il réagit à peine en me voyant arriver. Puis il se redressa et scruta les environs. « La voie est libre. » Il me fit signe de le suivre et ouvrit la porte. « On va où ?» demandai-je dans son dos. Il leva le bras et s'approcha du trottoir. Un taxi s'arrêta et nous nous y engouffrâmes. « Je n'ai pas assez pour payer le taxi. »«
Ne t'en fais pas, » me répondit-il d'une voix calme.
Il sortit de sa poche une liasse de billets de 10 livres et me lança un regard satisfait. « Nom de... Tu as trouvé ça où ?»«
Dans la planque de mon père. »
« Ton père a une planque ?»«
Oui. Il pense que personne n'est au courant. »«
Il va s'en rendre compte ?»«
Peut-être. En tout cas, il ne pourra jamais prouver que c'est moi qui les ai pris. »
Le taxi nous déposa à Kensington High Street, devant un grand bâtiment avec une 10aine de fenêtres arrondies et les mots « Kensington Market » écrits en lettres chromées au-dessus de la porte. J'entendais de la musique s'en échapper. Des sons métalliques martelés, assourdissants. Je suivis Finn à l'intérieur et pénétrai dans un inquiétant labyrinthe. Nous passâmes devant des 10aines de magasins minuscules gardés par des hommes et des femmes aux visages fermés, aux cheveux de toutes les couleurs, aux yeux charbonneux, aux vestes en cuir abîmées, aux bouches pincées, aux tenues déchirées faites de résille, de piques en acier, de chaussures compensées, qui avaient des piercings au nez, aux sourcils, des colliers de chien, des crêtes, des froufrous, des jupons, des robes à carreaux roses, des cuissardes en vinyle, des bottes à lacets, des vestes de baseball, des favoris, des choucroutes peroxydées, des jupes longues, des lèvres peinturlurées, mâchant du chewing-gum, mangeant des hot-dogs, buvant du thé dans des tasses à fleurs avec un petit doigt à l'ongle peint en noir levé en l'air et un furet en laisse. Chaque magasin passait sa propre musique,
et j'avais l'impression de changer de station de radio au fur et à mesure que j'avançais. Finn touchait tout ce qui lui tombait sous la main. Une veste de baseball vintage, une chemise de bowling brillante, au dos de laquelle était brodé le prénom Billy, une étagère à vinyle, une ceinture cloutée en cuir. Moi, je ne touchais à rien. J'étais terrifié. Nous nous approchions d'un magasin dont s'échappaient des volutes d'encens. La vendeuse, une femme aux cheveux blancs et à la peau laiteuse, qui était assise sur un tabouret, me lança un regard perçant de ses yeux bleus glacés, et je manquais de trébucher. Dans la boutique suivante, une femme portait un bébé sur ses genoux. Il me sembla révoltant d'emmener un si jeune enfant dans un endroit comme celui-ci. Nous parcourûmes les couloirs de ce marché étrange pendant une heure. Nous achetâmes des hot-dogs et du thé très fort dans un café bizarre à l'étage, tout en observant les gens. Finn s'acheta une écharpe noire et blanche qui ressemblait à celle portée par les hommes dans le Sahara et des 45 tours de groupe dont je n'avais jamais entendu le nom. Il tenta de me convaincre d'acheter un t-shirt noir avec des serpents et des épées. Je ne cédais pas, même si une part de moi aurait bien voulu le porter pour lui plaire. Il essaya une paire de chaussures en daim bleu avec des semelles compensées en crêpe qu'il qualifiait de pompe de Mac. Il se regarda dans un miroir en pied et coiffa sa mèche vers l'arrière, ce qui le transforma immédiatement en idole des années 1950, à mi-chemin entre Montgomery Clift et James Dean. Je dépensais 2 livres pour m'acheter une cravate texane ornée d'une tête de bélier. L'homme qui me la vendit, une sorte de cow-boy punk, la glissa dans un sachet en craft. Quelques minutes plus tard, nous émergeâmes du marché pour retrouver la lumière d'un samedi matin normal, avec ces familles qui faisaient leurs courses, ces Londoniens qui montaient et descendaient des bus. Nous marchâmes plus d'un kilomètre pour rejoindre Hyde Park et nous assîmes sur un banc. « Regarde !» m'intima Finn en ouvrant la main droite. Je baissai les yeux et découvris un petit sachet en plastique froissé. À l'intérieur se trouvaient 2 petits morceaux de papier. « C'est quoi ?»«
De l'acide. »
Je ne comprenais pas.
« Du LSD. »
J'en avais entendu parler. C'était une drogue, quelque chose que prenaient les hippies et qui provoquait des hallucinations. J'écarquillais les yeux.
« Mais comment ? Pourquoi ?»
Le type du magasin de disques, il m'a fait comprendre qu'il en avait. J'ai rien demandé, moi. Il devait penser que j'étais plus vieux.
Je contemplais les morceaux de papier dans le sachet. Mon cerveau n'arrivait pas à bien interpréter la situation.
« Tu ne vas quand même pas ?»«
Non. Enfin, pas maintenant. »
Mais tout à l'heure, quand on sera à la maison, ça te dit ?
Je hochai la tête.
J'aurais dit oui à n'importe quoi, tant que cela me permettait de passer du temps avec lui. Finn nous acheta des sandwichs dans l'un des hôtels chics qui bordaient le parc. Ils étaient servis sur des assiettes aux bords argentés, avec un couteau et une fourchette. Nous nous étions installés près d'une grande fenêtre. Je me demandais ce dont nous avions l'air. Le grand et beau jeune homme, avec son ami aux joues de bébé dans une veste en jersey bon marché.
« Qu'est-ce que font les adultes en ce moment, à ton avis ? »
demandai-je.
« J'en ai rien à battre. »«
Ils ont peut-être appelé la police ?»
J'ai laissé un mot.
« Ah bon ? » m'étonnai-je de cet acte si bien élevé. « Qui disait quoi ?»«
On est sorti avec Henry, on rentre tout à l'heure. »
« Avec Henry ?» Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Qu'est-ce qui vous est arrivé en Bretagne ? » « Pourquoi vous êtes parti ?»
Il secoua la tête.
« Tu ne veux pas savoir. »«
Si, vraiment. Raconte-moi. »
Il soupira.
« C'est la faute de mon père. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il disait qu'ils étaient censés tout partager, mais ça, c'est un objet de famille. Et ça valait au moins 1000 livres. Il l'a volé et est allé le vendre. » Ensuite, il a déclaré qu'il avait vu quelqu'un cambrioler la maison et le prendre. Il s'est gardé l'argent. Puis, le père de la famille a eu vent de l'affaire et il a pété les plombs. « On est parti le lendemain », conclut-il en haussant les épaules. « Enfin, il y a eu d'autres trucs, mais ça, c'était le plus gros. »
Je comprenais mieux pourquoi il ne se sentait pas coupable d'avoir piqué l'argent de son père. David prétendait gagner sa vie grâce à des cours de sport. Mais combien pouvait-il vraiment obtenir en donnant 3 leçons par semaine sur la médecine alternative à des hippies dans la salle paroissiale. Était-il en train de vendre toutes nos affaires ? Il avait déjà réussi à persuader ma mère qu'il était le plus qualifié pour s'occuper de notre budget. Peut-être qu'il prélevait l'argent directement sur notre compte en banque. L'argent qu'il était censé donner aux associations pour venir en aide aux pauvres. Tous mes pressentiments commencèrent à prendre la forme d'une menace grave et bien réelle. « Tu aimes ton père ?» demandai-je en jouant avec le cresson qui restait dans mon assiette. « Non, je le méprise. » J'acquiesçai, rassuré par cet aveu. « Et toi, tu aimes le tien ?»«
Mon père est faible, » répondis-je en sachant immédiatement que c'était la vérité.
« Tous les hommes sont faibles. C'est pour ça que le monde est sans dessus-dessous. Trop faible pour aimer vraiment. Trop faible pour reconnaître leur tort. »
Mon pouce accéléra devant la puissance de ce constat. C'était la chose la plus vraie que j'avais jamais entendue. La faiblesse des hommes était la cause de tous les maux de notre univers. J'observais Finn retirer 2 billets de 10 de sa liasse pour régler ses sandwichs hors de prix.
« Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te rembourser. »
Il secoua la tête.
« Mon père va prendre tout ce que toi et ta famille possédez, et ensuite il va détruire vos vies. Alors c'est le moins que je puisse faire. »